L'absence de preuve n'est pas une preuve de non-existence. L'humain a une double nature. D'une part, il y a l'être sensible, inscrit dans la relativité de l'espace-temps, qu'il appréhende par ses cinq sens, ouvert à tous les vents et par nature enchaîné à l'expérience. L'être sensible, c'est cette fibre d'infini, ce potentiel d'interaction sauvage, cette intuition absolue, argile de nos réactions spontanées, une masse informe qui se soustrait à toute tentative de catégorisation. D'autre part, il y a l'être de raison, cet architecte fictif qui donne forme aux choses en assurant leur permanence à travers les changements d'état, qui pose des cadres fictifs, enferme le réel dans une prison de chimères aux barreaux nébuleux pour le rendre intelligible, compréhensible et saisissable à l'entendement humain. Ces deux systèmes composant la psyché humaine, bien qu'opposés par nature dans ce qui les détermine, se complètent, s'emboîtent à la perfection. Voués à la lutte permanente l'un contre l'autre pour qui saura prendre le plus de place, ils sont à l'origine de cette tension, de ce champ magnétique qui attrape des fragments du monde dans ses filets et les bouture à l'homme. En d'autres termes, ils sont à l'origine de ce que nous sommes. L'un nous fait évoluer, tant au changement, et l'autre nous enracine en nous-mêmes. Et cet effort de persévérer dans son être, c'est le conatus de Spinoza, pour les connaisseurs. Mais bon, ça, je ne vais pas vous pomper avec des mots et des noms. Je rajouterai simplement un nom, Cassirer, qui dit cette phrase qui me semble vraiment représenter le propos que j'essaie d'exposer. « Pour n'être pas simplement monde, il faut que l'homme donne forme à la matière. Pour n'être pas simplement forme, il faut qu'il procure réalité à la disposition qu'il porte en lui. Il doit extérioriser tout ce qui lui est intérieur et mettre en forme tout ce qui lui est extérieur. » Par les travaux des anthropologues, des archéologues et des historiens, on a pu se demander si les premiers hommes étaient capables de matérialiser cet équilibre entre nos deux natures, capables d'exprimer cette dualité pour la tempérer, capables de créer. Car oui, la création, c'est le vecteur de transition sur lequel repose tout entier l'enjeu de cet équilibre. La bonne nouvelle, c'est qu'on a une réponse à cette question de « les premiers hommes étaient-ils capables de création ?» La mauvaise, c'est que, comme beaucoup de choses, elle est incomplète et promet de le rester longtemps encore. Alors pourquoi je te parle de ça, tu vas me dire? Eh bien, parce que la capacité de l'homme à créer, à prendre à bras le corps cette énergie qu'il ressent dans sa moelle et qu'il sent le besoin d'extérioriser, c'est aussi sa capacité à laisser des traces. Et c'est cette aptitude qui nous intéresse. Car c'est ce qui fondamentalement donne naissance à l'histoire, permet le récit, potentialise la mémoire humaine, donne l'opportunité à l'humanité de se connaître, d'ériger son portrait le plus fidèle, de corriger ses modèles passés. Le Maroc est connu depuis longtemps pour être une véritable mine d'or pour les géologues et les historiens. Dans cet épisode, nous étudierons la place prépondérante des découvertes qui ont été faites dans le retracement de l'histoire de l'humanité, car le sol que nous piétinons quotidiennement, sans y prêter attention, regorge de mystères, d'indices pour résoudre les énigmes qui tourmentent l'homme moderne en nourrissant sa crise identitaire. La terre des hommes, qui a tout vu, tout entendu, regorge d'enseignements, d'informations. Dans cet épisode, je vous propose de prendre la pelle et la pioche, en quelque sorte, pour creuser la terre qu'ont foulée des milliards d'êtres humains à travers les siècles et d'en déterrer quelques petits secrets. Commençons par la fin du commencement, puisque le début se trouve encore en dehors des sentiers battus de la connaissance humaine. En roulant sur la nationale à l'ouest, à 330 km au sud d'Agadir, tapis dans le rebord interne des côtes atlantiques, on tombe rapidement sur un rond-point mettant en scène un duel de chameaux. Les deux bêtes, immenses et immobiles, d'un blanc albâtre contrastant avec l'indéfectible azur du ciel, se font face. Sur un malentendu ou sous l'effet d'un mirage, on jurerait les voir tête contre tête. Mais la tension de la joute est retenue ailleurs, par le palmier chétif qui a été planté à quelque équidistance, éternel arbitre d'un colloque singulier. Les deux colosses, qui gardent la ville de Tantan, accueillent peu de visiteurs au cours de l'année, si ce n'est en l'occasion du Moussem, rassemblement annuel de nomades du Sahara, qui réunit plus d'une trentaine de tribus du sud marocain et d'autres régions du nord-ouest de l'Afrique. Fut un temps, ils constituaient un véritable pilier de la vie mondaine bédouine. annulant toutes les querelles entre les tribus, la foire du Moussem les réunissait autour de festivités, d'activités commerciales diverses et variées. Il y en avait pour tous les âges, pour tous les goûts. Si vos montures traînaient du pied, l'excitation était telle que vous redoubliez d'efforts et finissiez par arriver la veille au plus tard. Le jour J, l'aube réveillait la foi des hommes avant le soleil. Et celle-ci, en pieuse messagère, s'en allait les extirper du sommeil. Car au crépuscule du matin, lorsque le fil blanc du jour se distingue du fil noir de la nuit, le Seigneur fait l'appel. Après avoir réalisé leurs ablutions et prié d'urkat de gratitude pour un jour de plus à vivre, les nomades procédaient à la mise en place des équipements. Quand ils ne se tournaient pas autour comme des chiens derrière leur queue, les enfants faisaient les coursiers auprès des adultes, tandis que ces derniers s'activaient autour des stands. Les rangées de tentes formaient naturellement une allée de terre nue qui servait de marché. Elle était jonchée de mets, de montagnes de fruits secs, d'épices parfumées, de bijoux et de bibelots en tout genre, disposés sur des panières ou des étoffes à même le sol, entre lesquelles serpentaient les mlahfa, des sahraouis qui faisaient leurs courses. Pendant des siècles, les nomades, puis habitants de la ville de Tantan, mènent leur vie dans l'ignorance totale de ce que leur terre dissimule, quelques centaines de pieds sous terre, et de l'importance de la brèche historique qu'une telle découverte s'apprête à ouvrir. Ce n'est qu'en l'an 1999, à quelques kilomètres au sud de la ville, dans un dépôt sur la rive nord du fleuve Dra, qu'un archéologue allemand déterre une statuette mystérieuse datant d'il y a plus de 300 000 ans. Jeune esquisse de l'art humaniste à l'aube de l'esprit, on croit distinguer la silhouette d'une femme dénudée. On lui attribua le nom mythologique de Vénus, déesse de la beauté, la Vénus de Tantan. Une femme sans visage, réduite par les phénomènes géologiques naturels et par les jeunes élans créatifs de l'être humain à la nudité du corps. Des courbes grossières pour l'homme moderne, mais incroyablement figurative dans l'œil des sapiens de l'époque, vous imaginez, taillée dans un quartzite aux couches multiples. Quel est le fer qui l'a battu, la cloison qui l'a pensé? Qui en est le véritable maître? Peut-on se permettre de créditer les fantasmes d'un esprit mu par un vulgaire patron d'élan créatif? Pour répondre à cette question, les scientifiques s'accordent aujourd'hui à penser que si la patte de Mère Nature a sans doute pesé dans la balance, peut-être en donnant une forme élémentaire, figurative, de base un peu à la roche, on ne peut vraisemblablement pas exclure le travail humain. Ainsi, la Vénus de Tantan constitue l'une des nombreuses traces laissées par les premiers hommes dont regorge le Maroc, d'un peuplement très ancien, entre 300 000 et 500 000 ans avant notre ère. Notre terre féconde est parsemée de ces indices, autant de maillons témoins de l'homme, de ses états d'âme et de ses états d'être. Quelle que soit la forme, la pensée s'est toujours manifestée à notre espèce. Le propre de l'homme, en fait, c'est sa capacité réflexive, ce muscle nébuleux, innervé par les stimulus, qui le pousse, bon gré mal gré, et sans crier garde, à éprouver ses alentours, à interroger le monde connu, à dompter le trouble qui, par nature, nous habite. Mais si éplucher l'histoire de l'art avant l'histoire telle qu'elle est intelligible à l'homme moderne, c'est-à-dire l'art préhistorique, peut à juste titre se vanter d'être le reflet, le miroir de la psyché humaine à travers les âges, qu'en est-il du pilier sur lequel celle-ci repose tout entière? Qu'en est-il du corps? Quelle est son histoire? Les différentes morphologies qu'il arbore au cours de son évolution? Et quelle découverte peut bien nous l'enseigner? À nouveau, la réponse essentielle à cette question existentielle, la terre fertile du Maroc en a apporté une partie pour calmer l'éternelle crise identitaire des hommes. Le plus ancien représentant connu de notre espèce, Homo sapiens, vivait il y a environ 315 000 ans au Maroc et confirme une fois de plus l'origine panafricaine de l'humanité. En 1960, une découverte exceptionnelle va complètement ébranler la temporalité du genre humain telle qu'on l'a concevait jusque-là. Parmi les nombreux points d'ombre dont le voile de la création et de la vie humaine est tissé, celui de notre ancienneté sur Terre est l'un des plus difficiles à éclairer. Et mettons-nous d'accord sur une chose d'office, hein ? Explorer lampe de l'humilité à la main, des pistes de résolution du mystère que représente l'origine de l'humanité, n'a rien de profane, ni de contraire à la religion, n'en déplaise à tous ces sceptiques qui préfèrent se réfugier entre les quatre murs familiers de leur biais et se persuadent stupidement que l'homme est au centre de tout, qu'il existe depuis la nuit des temps, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il n'y a rien de réducteur, en fait, à désacraliser le genre humain, à dissiper l'illusion de la totipotence du genre humain, à le retirer de son piédestal taillé dans le bois de l'hubris qui le place au centre du monde vivant. Lyousoufia, province du plateau central marocain. Quelques poussiéreuses roches de barite et 300 ans nous ont séparés d'une mine d'or pour l'esprit scientifique, prise dans un triangle des Bermudes dont elle est l'épicentre entre Souera à l'ouest, Safi au nord et Marrakech à l'est. Un vent chargé d'histoire souffle et ébouriffe la crinière verte des arbustes qui garnissent ponctuellement la vallée de Draa. Par endroits, quelques habitations éparses interrompent l'étendue de verdure le long des rares cours d'eau qui serpentent à son pied. Pas une ville, pas un village à des kilomètres à la ronde. Dans ce socle ancien de plateaux ouverts sur l'Atlantique, 75 kilomètres plus loin, pas la moindre trace de citadins ou de ruraux. Seuls les miniers, pieds et poings liés par un enjeu financier, un enjeu de taille, un enjeu vital, daignent s'aventurer entre les quelques arbustes qui en décorent irrégulièrement le tapis de terre cuivrée. Munis de leurs outils et de leur résilience, ils piétinent un crâne dégarni de limons et de conglomérats. Un crâne dur comme la tête d'un avocat pénaliste, quasi chauve comme un scalp en début de calvitie. Ainsi, des ruisseaux humains de travailleurs ont longtemps afflué d'un pas traînard vers une excroissance montagneuse fièrement dressée au milieu de nulle part. Le Jbel Irhoud, de son vrai nom en amazigh, Adrar Nirhoud, un mont transformé en mine de baritine, un cristal minéral, et exploité pendant des dizaines d'années. Arrêt sur image. En bas, dans la mine, les ouvriers tapaient la roche à grands coups sur une sorte de rythme entêté. On n'aurait pas entendu un tracteur vrombir à la surface, dans le vacarme infernal des coups irréguliers des barres à mine, uniquement interrompus par les cris stridents de la foreuse. L'humidité empêchant l'air de circuler, on était bercé par une pénible chorale de halètements mêlés à des complaintes étranglées. Pris d'une dyspnée qui allait en s'intensifiant, le souffle des mineurs ricochait contre les parois de la grotte souterraine, comme se répondant les uns aux autres. De temps à autre, quand leurs mains se retrouvaient inondées de sueur, après une demi-heure d'exercice acharné, très physique, ils pensaient enfin à s'essuyer sur leurs vêtements, avant de reprendre leur travail de plus belle. Le baryte est un minéral froid, d'un blanc nacré, presque translucide par endroits, virant sur le gris. Les miniers devaient extraire donc ce baryte, et pour ce faire, éviter les blocs de cristaux tranchants qui pendaient du plafond et effleuraient dangereusement leur visage. Qui aurait cru, qu'en ces lieux austères et soumis à l'exploitation de l'homme dans sa forme la plus violente et nécessaire, les cadavres des plus vieux hommes identifiés à ce jour reposaient dans une prison de pierre et de baryte depuis des centaines de milliers d'années. Que pendant tout ce temps, la vie incarnée en la personne du corps minier marocain se frottait littéralement à la mort qui, 300 000 ans auparavant, avait mystérieusement emporté nos ancêtres et dont les seuls squelettes promettaient de nous révéler un pan extraordinaire de ce que nous fûmes jadis et de ce que jamais nous ne cesserons d'être. Depuis des siècles, les mineurs travaillaient donc machinalement la roche, sans se poser trop de questions. Leur devoir se limitait à l'extraction, bête et méchante, massive, de baryte, qui est ensuite purifiée et utilisée dans le secteur médical, mais surtout industriel. Pas le temps d'examiner ou d'analyser les spécimens qu'ils pouvaient rencontrer en creusant le baryte. Hein. Au petit matin, il fallait faire des pieds et des mains, ou plutôt des pelles et des pioches, sans broncher, jusqu'à la défaite du jour contre la nuit. L'on ne saurait quantifier aujourd'hui, je vous laisse imaginer, hein, la quantité de fossiles qui ont dû reposer là depuis des millénaires et qui ont été réduits en poussière par l'exploitation minière. Mais bon, comme je l'ai dit, elle est nécessaire. Un jour, un ouvrier plein d'initiative prête une attention toute particulière à la roche qu'il taillade avec indifférence depuis des années. Le métal de sa lame se heurte à un matériau étrange qui pique sa curiosité. Il interrompt son mouvement le met en suspens et inspecte le spécimen. En temps normal, bah, il l'aurait jeté ou passé au crible de son outil. Mais un étrange instinct de ceux qui, finalement, font prendre un tournant majeur à l'histoire, le somme de le conserver, lui intime de le garder. Il le place dans un échantillon et juge bon de le faire examiner par une autorité peut-être plus compétente, scientifiquement parlant, plus expérimentée peut-être, ou du moins moins pris par le temps et le labeur. Il se trouve que cette autorité était le médecin sur place, donc le médecin de la mine, installé plus haut vers la surface dans un bureau en plein air. Alors, on va passer à une partie, j'ai pas l'habitude de faire ça sur le podcast, mais je me posais la question et je trouvais ça intéressant de peut-être se représenter, un peu avec la liberté de notre imagination, comment cette rencontre a pu être orchestrée, à quoi elle aurait pu ressembler, d'accord, dans un espace fictif qui est celui de mon imagination, d'accord. Je suis quelqu'un, j'adore écrire de toute façon, j'adore me faire des films. Tout ce qu'on sait, voilà, tout ce que je vous ai dit auparavant, c'est factuel, c'est objectif, vous pouvez retrouver les mêmes informations sur toutes les sources que vous allez consulter, enfin plus ou moins, hein, parce que vous savez que même au sein de la communauté scientifique, bah, y a des divergences, hein, des précisions différentes. Simplement, voilà, à partir de ce moment-là, je vais faire une petite description un peu fictive, un peu narrative, pour romantiser peut-être cette rencontre entre le mineur et le médecin, parce que je trouvais intéressant de la transcrire en un récit, tout simplement. Je vous dirai quand on reprend sur de l'objectif et du factuel et on reprend sur de l'histoire pure. Là, on est vraiment dans la narration. Et je vous ferai signe, de toute façon. Alors, dans le huis clos de mon imagination, j'aime à imaginer le médecin passant le plus clair de ses journées depuis le début du chantier à lire ou à rédiger des revues médicales en français, puisqu'à l'époque, c'était la langue de prédilection hein, du corps médical marocain, espérant se faire un nom dans la presse scientifique internationale, peut-être. Entreprise de longue haleine, couronnée de vanité, à laquelle on a souvent tendance à s'adonner, de tout notre souffle faussement créateur. Alors, lorsqu'un mineur l'extirpe de ses tribulations pour lui présenter un vulgaire caillou, qui a pu attirer son attention volatile, le médecin ne cache pas sa frustration. Ou tout du moins, c'est comme ça que je l'imagine. Hein, et le toise de haut en bas, d'un œil circonspect. Le vieil homme, trapu, tout de blanc vêtu, lève à peine les yeux vers son interlocuteur. Le mineur s'immobilise à un mètre de son bureau, les bras ballants le long du corps. Il arbore une mine hésitante sous la fine couche de sueur qui perle de son front et réfléchit les rayons que le soleil déverse en cascade par la petite ouverture de la tente conçue à cet effet. Tout dans la posture du médecin lui fait comprendre que sa présence n'est pas la bienvenue dans pareil contexte. Pourtant, il soutient farouchement le regard du vieil homme agacé, du haut de son 1m70 et de son épuisement, avec entre les mains, même s'il ne le sait pas encore, une découverte qui s'apprête à changer la face du monde. D'un ton égal, le mineur salue le professionnel de santé, qui le lui rend par un « Que la paix soit également sur toi, si Mohamed » dans sa barbe, avant de reporter à nouveau son attention sur la liasse de parchemin devant lui. Le dit « si Mohamed », apostrophe qu'on a l'habitude d'utiliser pour s'adresser à une personne dont on ignore le nom, de son vrai nom Abdelhaq, ou Bouazda, ou Mehdi, ou qu'importe en fait, puisque l'histoire ne retiendra pas son nom. J'espère que tu perçois l'ironie dans cette phrase. Le courant arbitraire de l'histoire, en effet, est lui-même guidé par un vent de bonne naissance et emporte dans les bas-fonds de l'oubli la basse-cour, comme on dit, le commun des mortels, en opérant ce qui s'appelle une sélection naturelle par le prisme du mythe de la méritocratie sur les classes moyennes et populaires, maintenant à sa surface les noms de grandes familles, hermétiques comme le bois creux. De même, on ne se souviendra pas du mineur, sans qui l'espèce humaine aurait perdu le tiers de son âge. Puisqu'en effet, la découverte qu'il tient entre ses mains va rajouter près de 100 000 ans à l'âge de l'humanité. Là, on repasse sur du factuel. Voilà, le petit kiff de l'épisode est passé. J'ai kiffé, voilà, c'est mon péché mignon. Vous savez que j'adore écrire de toute façon, donc j'avais besoin de sortir cette vision que j'avais dans ma tête de la scène de la coucher sur le papier et de vous la partager, vous en faites ce que vous voulez. Là, on repasse sur de l'objectif, du factuel, de l'histoire pure et dure, avec bien sûr quelques accents de romanesque, parce que c'est un petit peu ma patte, tout simplement. À partir de ce moment-là, donc, le professionnel de santé va laisser plusieurs jours passer avant de prêter la moindre attention à l'échantillon. Puis ensuite, il va le remettre à une autorité plus compétente, des anthropologues, qui vont procéder à une analyse, en fait, de l'échantillon. On en parlera plus tard. Pour le moment, Je te propose de remonter un petit peu le temps et de se placer dans l'époque de laquelle cet échantillon est issu, c'est-à-dire entre 300 000 et 330 000 ans avant notre ère, telle qu'elle a été imaginée et décrite par les experts sur la base de tout un tas de découvertes satellites faites à la même époque, enfin concernant la même époque du coup. Donc à l'époque, encore une fois, 300 000, 330 000 ans avant notre ère, c'est dans une Afrique tropicale, entièrement verte, incroyablement fertile, que se déploie un des premiers spectacles de la vie sur Terre. Pas une trace du Sahara sur la carte, pas une frontière géologique, de la verdure à perte de vue. Imaginez. Sur le continent, les contrées les plus sèches, les plus arides, se trouvent en fait exclusivement aux abords de l'actuelle Afrique du Sud. Cette découverte permet à notre imagination de vagabonder en long, en large et en travers d'un vaste champ des possibles. Elle renforce nos certitudes quant à l'existence d'échanges, de croisements culturels et génétiques entre les premiers hommes répartis en groupes singuliers sur tout le territoire. L'absence de barrières géologiques que représenterait de nos jours le Sahara, par exemple, ferait de l'Afrique un vaste chaudron, une vaste marmite, un vaste melting pot, où les hommes de toutes parts se seraient côtoyés, se seraient mélangés, pour le meilleur et pour le pire. Le temps, les aléas naturels et la curiosité innée chez l'homme travaillent main dans la main pour travestir le paysage et porter plus loin le défi d'être homme. C'est donc à cette époque que vivaient les sapiens échoués dans la mine dont un ouvrier désabusé déterra les ossements en 1960. Cette découverte majeure couronne de bonheur la communauté mondiale des paléoanthropologues et offre également à la cognition humaine un recul remarquable sur son odyssée de vie. Elle permet de reculer les origines de notre espèce de près de 100 000 ans et de déplacer son origine territoriale géographique, jusqu'ici localisée en Afrique de l'Est et du Sud, à l'Afrique du Nord-Ouest. Non seulement elle renforce l'hypothèse d'une origine panafricaine de l'humanité qui avait déjà été fondée préalablement, donc avant cette découverte, mais elle laisse aussi, grande ouverte derrière elle, une fenêtre exclusive sur la question des échanges interculturels de l'humanité au fil du temps. La découverte du premier crâne en 1961 a un effet domino sur le rythme des fouilles, qui ne sera déclenché par contre que bien plus tard. En effet, confrontés à la réalité du pays et au manque de considération des autorités locales pour la question, les anthropologues se voient contraints de lever le pied pendant de longues années. Il faut comprendre que le Maroc à l'époque aussi avait des priorités bien plus importantes, bien plus critiques, ou tout du moins à l'échelle d'une société, d'une nation, de l'ordre socio-économique, politique, etc. Donc voilà, le focus n'était pas forcément placé sur la recherche paléo-anthropologique ou sur l'archéologie. Freiné dans son ascension, mais radical dans sa volonté de percer à jour l'énigme de Jebel Idil Houd, la communauté scientifique fait des pieds et des mains pour obtenir un accès au site, ce qu'elle finit par faire. Pas question de passer à côté d'une montagne de révélations qui pourrait se trouver juste sous leur nez. Car en effet, et c'est là toute la difficulté en fait de l'esprit de recherche, le passé livre ses secrets au compte-gouttes par une percée infiniment étroite dans le voile de l'espace-temps. Une percée dont l'ouverture est régulée par un décret énigmatique, répondant à la question qui taraude l'humanité depuis l'aube de la conscience. Que sommes-nous censés connaître? Quel équilibre mystique régule donc le flot de connaissances qui, ponctuellement, réalise une remontée dans le monde sensible? Ainsi, il suffit qu'un mince espoir émerge des torpeurs d'hier, comme l'ont fait les ossements d'Idil Houd, pour réveiller le trouble propre à notre existence qui nous lance à la poursuite frénétique de la vérité ou de ce qui s'en approche. Le sol marocain s'est montré particulièrement généreux avec la science. Les fouilles ont été très concluantes. Au total, 6 fossiles ont été trouvés et tous correspondent à la même ère préhistorique. Seul bémol, qui n'en est pas tout à fait un, la datation des ossements s'est avérée être un travail de longue haleine. Avec les moyens et les méthodes d'usage à l'époque, impossible d'identifier l'âge des individus avec précision. La frustration est d'autant plus grande pour la communauté scientifique qu'elle a pleinement conscience de l'enjeu que représente la recherche à Jebel Idil Houd. Il est rare de trouver un tel agglomérat de preuves sur un même lieu. La facilité avec laquelle celles-ci ont été mises en évidence s'est révélée très prometteuse et leur a mis des étoiles dans les yeux. Il convient donc de mobiliser des moyens plus importants, Le site requiert des financements, des subventions, pour qu'on ait au moins une chance d'identifier correctement les individus, qu'on ne se trompe pas trop dans l'âge, quoi. C'est pourquoi, en 2004, de nombreux paléoanthropologues décident d'unir leurs forces en créant un programme de coopération entre l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine et l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste, de laquelle monsieur, donc l'archéologue Jean-Jacques Hublin, est issu. Voilà, je n'ai pas envie de vous pomper avec trop de noms, retenez simplement ceci parce que ça reste quand même important, pour donner du crédit en fait à ces gens qui se sont battus pour justement qu'on ait cette découverte-là. Ensemble donc, ils parviennent à sortir le sol marocain du silence. Une armada de fossiles correspondant à près de 30 espèces animales refont surface également. À partir de ces reliquats, on se retrouve en mesure d'étudier le régime alimentaire des 5 Homo sapiens parmi ceux qui s'étaient établis dans la mine à l'époque. Car là où on trouve la proie, tu le sais, on trouve aussi le prédateur. Ainsi, par exemple, la gazelle semble être l'aliment de choix de l'homme Irhoud, qui en consomme en grande quantité. Si ça t'intéresse, je te laisse lire un petit peu davantage dessus. Sur internet, tu trouveras plein de choses, sinon il y a plein de ressources aussi dans les bibliothèques. Moi, je me suis un peu inspirée des deux, surtout d'internet, puisque c'est pas assez documenté, je trouve, en bouquin en tout cas, disponible à la collectivité. Mais voilà, pour moi, je vais pas m'attarder sur les exemples et sur le mode de vie et le mode alimentaire de Dilhoud. C'est pas exactement le sujet du podcast. Mais c'est tout aussi intéressant, donc je te laisse y pencher. Alors là, maintenant, on va passer sur une partie qui, moi, personnellement, c'est pas que ça me fascine, c'est que ça me met des étoiles dans les yeux, j'ai pas les mots. J'ai une fatade physique et je trouve ça absolument dingue qu'on ait à disposition ce genre de méthode. De datation, notamment du minéral, puisque c'est ce qu'on va voir ensemble là tout de suite. Quand tu te penches sur leur mode de fonctionnement, ça t'ouvre une fenêtre incroyable sur ce que l'homme est capable de faire, sur à quel point l'homme est capable de tirer les vers du nez à la terre et à l'histoire et au passé et au temps pour obtenir des réponses à ces questions. Enfin, pour moi, c'est une dinguerie. Donc, c'est parti. Pour parvenir à placer le curseur de l'histoire sur un point précis de l'espace-temps, et donc en d'autres termes, pour réussir à déterminer l'âge des sapiens d'Hillhood, les paléoanthropologues en sont rendus à dater l'alvéole minérale, à l'abri de laquelle les fossiles ont échappé à l'œuvre du temps meurtrier. Si le climat le permettait, si le soleil, en d'autres termes, n'irradiait pas la moindre trace de vie qui daignerait s'éterniser sur le plateau central marocain, il aurait alors été possible de récolter de l'ADN ancien sur ces précieux fossiles. Mais l'astre inflexible, le soleil, et les forces qui le gouvernent en ont décidé autrement. L'implacable chaleur de la région n'a pas épargné une seule molécule de désoxyribose sur les échantillons, qui aurait pourtant suffi, une seule molécule, à nous renseigner sur l'identité et sur l'âge des échantillons. J'ai le seum. Par contre, les chercheurs, voilà, ça les arrête pas. Moi, j'aurais lâché, j'aurais abandonné. Les chercheurs, ça les arrête pas. Ils se retrouvent dans l'obligation, en fait, de combiner deux méthodes de datation qui sont diamétralement différentes, dont celle de la thermoluminescence. Et je trouvais ça intéressant de faire un focus dessus. Alors, pas de panique, un peu de vulgarisation s'impose. Pour faire simple, le baryte, c'est un minéral, au même titre que le quartz ou le calcite. Et donc, par définition, les minéraux absorbent de l'énergie lumineuse qu'ils reçoivent du soleil. Donc chaque minéral possède sa propre constante d'absorption, c'est-à-dire une quantité définie par l'expérience, donc expérimentalement de façon empirique, de rayons lumineux qu'il est capable d'absorber en un temps imparti. Cette valeur est connue des géologues et elle est fixe pour une espèce donnée. Donc ça nous permet d'avoir un repère. L'idée de la thermoluminescence est de quantifier l'énergie solaire contenue dans la roche, d'accord ? Et à partir de la constante d'absorption, qui est propre au minéral, qui nous est connue, donc on a dans notre équation l'inconnu X, qui est la durée donc, de vie de la roche, donc la durée pendant laquelle le spécimen a été exposé à l'astre, donc c'est l'âge de la roche hein, finalement, c'est notre inconnu X, et on a un facteur connu, on va appeler A ou B, bref, constante d'absorption, propre au minéral, qui nous est connu. On connaît également par des analyses, par un travail expérimental aussi, des géologues qui, à l'époque et aujourd'hui, c'est des choses qui se font très facilement, on connaît la quantité d'énergie solaire qui a été absorbée par un minéral. Donc on a nos échantillons, on mesure la quantité d'énergie solaire qu'ils contiennent, on connaît, puisqu'on a identifié le minéral, hein, il a un profil le truc, il a un profil avec sa constante d'absorption, on connaît la constante d'absorption, on arrive à en déduire, la durée pendant laquelle, en fait, ce minéral a pu absorber l'énergie solaire et donc a été exposé à l'astre. Autrement dit, on est en mesure d'en apprécier la durée de vie terrestre, égale l'âge. C'est un truc de dingue. Le résultat est formel. 300 000 ans, à peu près. Encore une fois, un problème de précision. 300 000 ans. L'évolution de l'homme moderne est plus ancienne que ce que les précédentes découvertes fossiles le laissaient penser. Hein. On plaçait à l'époque l'âge de l'humanité, hein, en termes de sapiens, à 200 000 ans. En l'espace de quelques mois seulement, l'humanité prend près de 100 millénaires sur ses compteurs vitaux. Autant de nouvelles pages qui apparaissent, en fait, finalement, dans le livre de notre histoire, et dont il convient de révéler l'encre. Découverte stupéfiante, dans les faits, les hommes de Jebel Irhoud ne sont pas très différents de nous. La facilité avec laquelle les chercheurs dressent la liste de parallèles entre eux et l'homme moderne est absolument déconcertante. Enfin, c'est une dinguerie, compte tenu du temps qui nous en sépare, hein, puisqu'on parle quand même de 300 000 ans. Eh bien, d'après Jean-Jacques Hublin, paléoanthropologue à l'Institut de Max Planck, dont on a parlé tout à l'heure, leur visage est celui d'une personne qu'on pourrait croiser dans le métro ou dans la rue. C'est ce qu'il explique, hein, dans une interview que j'ai regardée, so you don't have to do it. Si ce n'est une différence de taille, à peu près, hein, au niveau de la boîte crânienne. Bon, ça, c'est une caractéristique, si vous voulez, qui est propre à l'évolution, comme beaucoup le savent. Moi, je l'avais étudié en anatomie, it absolutely blew my mind. Mais voilà, il y a un aplatissement de la boîte crânienne qui se défait, du coup. Au début, elle est aplatie, puis après, voilà, ça évolue un petit peu. La taille de la boîte crânienne est différente. Enfin, bref, c'est la seule différence. Mais sinon, globalement, ils nous ressemblent. Des humains qui datent d'il y a 300 000 ans. Je laisse ça là. De nombreux autres éléments ont été retrouvés dans la grotte. Autant d'indications sur le mode de vie développé par les hommes de Dirhoud et sur leur capacité à s'approprier leur environnement. Un certain nombre d'outils en pierre, notamment, sont retrouvés dispersés à plusieurs endroits, symbole de la technicité, en fait, qui caractérisait leur quotidien à l'époque. Et donc de leur avancement, quand même, intellectuel. Enfin, il y a un degré d'appropriation de son environnement qui témoigne d'une certaine modernité, enfin je sais pas. La découverte des fossiles de Jebel Irhoud, donc, jette une véritable torche dans l'obscurité qui enveloppe la question de l'origine des hommes.